Alors, l'eau, c'est quelque chose qui va être très important, et c'est pour ça que je choisis quand même de vous intéresser sur le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Adour-Garonne, qui a été présenté il y a quelques mois, et puis c'est surtout le diagnostic que j'aimerais vous faire voir, et sur les mesures qu'il faudrait prendre, mais ça, c'est une autre histoire. Le diagnostic, vous l'avez là, hein. Une augmentation des températures moyennes annuelles de l'air de minimum 2 degrés. Alors tout ça, c'est à l'horizon 2050. Ils ont réuni un groupe d'experts de l'eau, du climat, de la météo. Ils ont réuni un groupe de 50 personnes pour faire un diagnostic. Ils sont tombés sur ce diagnostic. Hein. Une augmentation des situations extrêmes, sécheresse, crue, inondation. Pas d'évolution, par contre, sensible du cumul annuel des précipitations. Il pleuvra autant, mais sauf qu'à des moments, il pleuvra beaucoup et à des moments, il pleuvra pas. Ni plus ni moins. Une baisse moyenne annuelle des débits naturels des rivières, compris entre -20 et -40%, jusqu'à l'ordre de -50% en période d'étiage, qui seront plus précoces et plus sévères et plus longues. Donc, on va avoir 50% de moins d'eau l'été. Donc, il faut que d'ores et déjà, je pense, on réfléchisse à tout ça. Et je sais qu'à l'agence de l'eau Adour-Garonne, ils sont très inquiets là-dessus. Martin Malvy, il a pris son bâton de marche et il fait toute la région pour en parler. Je sais qu'il était à Sébazac il y a un mois et demi à peu près pour en parler. Et lui, il est très inquiet hein, là-dessus. Et il a raison. Une diminution de la durée d'enneigement, bon ça nous concerne un peu moins, bien que s'il neige moins sur l'Aubrac et si la neige fond plus tôt, ça va directement dans la rivière l'autre, quoi, hein, la fonte des neiges. Et donc, on ne pourra pas en garder pour l'été. Une augmentation de l'évapotranspiration et du sol et des plantes, comprise entre +10 et +30, c'est donc important. Une augmentation des sécheresses des sols, une tendance à la baisse de recharge des nappes phréatiques, bien sûr, une augmentation également significative des températures des eaux de surface. Donc, on a déjà constaté qu'en 40 ans, les eaux de surface avaient pris plus 1,5 degré. Une élévation du niveau des mers, d'ici, on n'est pas trop concerné. Bon, c'est surtout que ces impacts se font déjà sentir aujourd'hui et vont s'accentuer. Donc, sur la tension, mais dégrader aussi la qualité de l'eau et augmenter, par exemple, les risques d'eutrophisation. Donc, un impact sur l'eau et un impact sur la faune et la flore. Voilà, en gros, d'autant plus, donc, il rajoute que les prévisions démographiques prévoient 1,5 million de personnes en Occitanie de plus en 2050. Bon, elles seront peut-être pas ici, mais elles seront en Occitanie tout de même. Alors, ils ont fait un bulletin météo le 10 août 2050. Alors, regardez Rhodes. À Rhodes, le climat supraméditerranéen se confirme. Il fera 41 degrés avec un ensoleillement particulièrement fort et un vent du sud qui renforcera l'impression de chaleur. Même la nuit, la température prévue sous abri ne descendra pas en dessous de 26 degrés. Alors moi, en 2050, je ne pense pas que je serai là, mais je pense à tous les jeunes qui seront là, ou les jeunes qui naissent maintenant, ils seront là en 2050. Hein. Et je trouve que ce n'est pas normal de leur laisser l'état de la planète comme ça. Quoi. Voilà, on va revenir maintenant aux pollutions. Aux pollutions, notamment les pollutions industrielles. Alors, on parle de pollution industrielle ou de débordement industriel. Alors, débordement industriel, c'est quand la pollution est tellement grande qu'elle dépasse le périmètre de l'entreprise, en fait. Alors, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, tous les conflits étaient réglés normalement dans des tribunaux locaux. Et donc, ces tribunaux locaux, ils avaient la main dure contre les industriels, parce qu'ils défendaient plutôt les riverains qui subissaient toutes les... Alors, on ne parlait pas de pollution, on parlait de nuisances, on parlait de miasmes pour les odeurs. Voilà, et donc, ils étaient plutôt sensibles aux riverains, et la plupart du temps, les industriels étaient condamnés, chose qui ne leur plaisait pas. Alors, un groupe de scientifiques s'est emparé de ce problème, et comme par hasard ces scientifiques faisaient aussi un peu de politique, alors là vous avez Chaptal. Chaptal, il a été, c'est lui qui a rendu un rapport, alors avec Guiton, il y avait d'autres scientifiques avec lui, qui tous avaient une place importante à la fin du XVIIIe siècle. Et donc, ils voulaient garder leurs privilèges. Là, on le voit sur un tableau de Boucher, en train de poser devant son usine, parce qu'ils étaient industriels aussi, la plupart. Une usine qui fabriquait de l'acide sulfurique et de l'alun. Voilà, donc, ils se sont réunis, ils ont fait un rapport, et ce rapport est abouti à une loi qui est la fameuse loi, le décret impérial du 15 octobre 1810, qui, en fait, réglemente... les usines, c'est la mère de la loi sur les installations classées que nous connaissons tous maintenant. Voilà, c'est une loi, donc un décret qui est très avantageux pour les entreprises. Il réglemente la distance des entreprises polluantes par rapport à certains riverains. Alors ça peut sembler intéressant, sauf que les distances sont bien sûr très courtes et que voilà, donc ce décret de 1810, ça a été le début de toute la réglementation des installations classées en France. Alors, en même temps qu'il y a ce décret qui désavantage, les industriels aussi, ils ont des méthodes pour diluer les pollutions, pour qu'elles soient moins nocives. Alors, la première dilution, c'est la dilution géographique. Alors, jusqu'au XVIIIe siècle... Voilà, au même mi-18e siècle, 19e siècle, il se plaçait plutôt du côté des grandes voies. Alors, on ne peut pas dire routières, il se plaçait près des ports et tout ça. Et puis, en 1850, il y a le chemin de fer qui est arrivé. Bon, il commençait à arriver dans le nord de la France, en région parisienne, un peu en Rhône-Alpes. En 1860, vous voyez que la carte des chemins de fer est déjà un peu plus fournie. Et vous voyez qu'ici, il y a une bretelle qui va jusqu'à Cap-de-Nac, qui se divise en deux, une vers de Cazeville et une vers Saint-Christophe, en 1860. Hein. Donc c'est là qu'on commence à voir arriver les industries à de Cazeville, parce que c'est vrai que pour les minerais de zinc, pour transporter les rails, justement, fabriqués à de Cazeville et les transporter ailleurs, le chemin de fer, c'était intéressant. Alors après, le réseau, c'est bien sûr... amélioré encore en 1870. Après, je vous ai mis les cartes suivantes pour arriver à la carte de maintenant, où je préfère pas en parler. Malheureusement. Voilà, alors en dilution géographique, dilution dans l'air aussi, dilution dans l'air et des fumées et des poussières. Alors, c'est les cheminées. Hein. Donc là, vous avez Vivier, la vieille montagne, avec les fumées et les cheminées. Là, vous avez deux Cazeville, la même chose. Alors, plus les cheminées étaient hautes, plus la dilution était large. Alors, il y en a qui sont plus hautes que d'autres, peut-être parce qu'ils voulaient diluer un peu plus. Voilà, mais je pense que même en diluant large, ça doit être bien pollué dans ces coins. Et quand même, la voie royale, ça a été quand même les fleuves. Hein. Les entreprises, surtout les plus polluantes, ont vite compris que ce soit aux États-Unis, à côté des Grands Lacs, que ce soit les grands fleuves de Chine ou les grands fleuves de Russie, les entreprises se sont installées, et se sont installées en France, le long de la vallée du Rhône, bien sûr, et puis ils sont venus s'installer à de Cazeville, où il y avait un petit ruisseau qui payait pas de mine, le Rio Mort, mais qui communiquait rapidement avec le Lot, qui, lui, était beaucoup plus large et avait un débit beaucoup plus puissant pour pouvoir évacuer tous les déchets et toutes les saloperies qu'il pouvait mettre là-dedans. Alors, il y a un traité d'assainissement industriel qui est très intéressant. On peut le trouver sur Gallica, hein, ça vaut le coup. En fait, c'est un traité d'assainissement industriel à l'usage des industriels, hein, pas à l'usage des particuliers. Hein. Voilà, alors sur chaque... sur chaque catégorie d'entreprise, il donne des renseignements, comment évacuer ces eaux. Voilà, c'est de bons conseils. Il dit même, à un moment, je l'ai lu, que finalement, l'eau réagit bien et que même si on peut y en mettre un peu plus, l'eau réagira encore mieux. Quoi. En gros, c'est ça qu'ils disent. Hein. Voilà, et donc, et sur le bassin, ça doit rappeler des souvenirs à des personnes du bassin. Tout ça, c'est fin des années 90, début des années 2000, où régulièrement, le rumor, même surtout à la période juillet, à la fermeture des entreprises, le rumor était pollué. Hein. Et après, il y a eu des pollutions ponctuelles de certaines entreprises, mais les ruisseaux, comme vous voyez, ça c'est une étude qui date de 1997, les ruisseaux malades réclament des soins d'urgence. Et bon, et les soins, ils ont été donnés, parce que il faut reconnaître que, alors là, vous avez la conduite dans le rumor d'une entreprise du bassin, qui ne le fait plus maintenant. Hein. Autant vous le dire, ils ont une station d'épuration, les entreprises ont fait des efforts, les particuliers font des efforts, bon, il y en a toujours qui sont pas... À l'époque, c'était régulier de voir quelqu'un faire sa vidange sous une plaque d'égout. Hein. C'était presque coutumier. Hein. Maintenant, on le voit plus. Hein. On l'a vu il y a 2-3 ans à Panchaud, mais je crois qu'il s'est fait gronder, il ne le refera plus. Voilà, donc nos ruisseaux étaient bien malades, mais on essaie tant bien que mal, et on y a vu des castors, on y a vu bon. Mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus clairs, moi j'y vois beaucoup de canards, on voit du poisson dans le rio mort, voilà, que ça dure. Voilà, alors avant les usines, il y avait eu quand même des pollutions ponctuelles, qui étaient plutôt des pollutions d'origine organique. Alors ça, c'est le travail du chanvre, parce que Livignac était renommé pour le travail du chanvre. Donc les paysans cultivaient du chanvre, et il y avait quand même 5 ou 6 tisseurs de chanvre. Les chanvres, on en faisait des tissus, on en faisait des toiles, on en faisait des cordes. Et le mercredi des cendres, il y avait une foire qui était très renommée à Livignac, où on venait de très loin, de Bordeaux, de tout ça, pour venir chercher des tissus en chanvre et tout ça. Sauf que le chanvre, pour le fabriquer, à partir de la plante, il y a une opération qui s'appelle le rouissage du chanvre, c'est-à-dire séparer l'aubier de la tige. Voilà. Et ça, on le fait dans l'eau. Et ça, c'est très polluant. Voilà. Et donc, sûrement que pendant des années, le Lot a été assez pollué à cause, justement, de ce rouissage du chanvre qui, alors, c'est vrai, ça devait se faire sur toute la longueur du fleuve, du Lot, quoi. Hein. Et donc, on gênait le voisin d'en bas qui, lui, gênait le voisin d'en dessous. Et puis, voilà, bon, personne ne disait grand-chose. Il y avait aussi une industrie des tanins qui était importante à Boisse-Panchaud, avec une entreprise qui fabriquait des tanins à partir du châtaignier, qui employait, jusqu'au début des années 1970, 70 employés. Bon, depuis, elle n'existe plus parce que les tanins sont fabriqués autrement. Il y avait même une poserie à Livignac, voilà, qui, là aussi, qui était assez polluante. Alors là, c'est un peigne à chanvre. Dans une récente exposition à la médiathèque de Livignac, il y a des paysans de Livignac qui ont exposé des outils qui étaient utilisés à l'époque pour travailler le chanvre. Voilà, alors on arrive donc aux pollutions de vieilles montagnes, plus particulièrement. Alors là, vous avez deux images de vieilles montagnes. Alors là, c'est ce qu'on appelle la montagne pelée. Alors il faut savoir que la montagne pelée, elle n'a pas toujours été pelée. Hein. Elle a été pelée à cause des fumées, à cause du zinc et à cause des acides qui sont tombés dessus. Et là, il n'est pas prêt d'y pousser quelque chose. Quoi. Voilà, donc vous voyez cette pollution de l'air, mais... Jusqu'en 1922, le zinc était fabriqué à partir de la blende. Il était brûlé, ni plus ni moins, et ça produisait des fumées et des poussières énormes qui ont pollué tous les terrains aux alentours et sur une très grande profondeur. Ensuite, le zinc a été fabriqué en 1922 par électrolyse. Alors là, l'air était certes un peu moins pollué, mais il y a eu une accumulation de déchets à partir de cette électrolyse qui a été très importante et surtout qui n'a pas été très bien gérée. Alors l'entreprise Vieille Montagne, elle jouissait d'une renommée sur le bassin et même encore d'ailleurs, hein, importante. Vieille Montagne, là vous voyez l'hôtel des célibataires. Donc c'est-à-dire que les gens, les jeunes qui n'avaient rien, ils étaient accueillis là, ils étaient logés. Il n'y avait pas de problème. Là, c'est la boulangerie où les gens de vieilles montagnes venaient acheter leur pain à un prix modique. Là, c'était des cités ouvrières qui existent toujours, d'ailleurs, à Viviers, qui sont bien entretenues. Voilà, il y avait un hôpital de vieilles montagnes, donc, qui était tenu par les religieuses du Saint-Sacrement. Et puis, il y avait, moi, je me rappelle, quand mes copains qui avaient des parents qui travaillaient à vieilles montagnes, ils allaient en colonie à Espinassol. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais bon, ça. Voilà. Donc, il y avait quand même une politique sociale qui attirait du monde, mais pour entrer à la vieille, c'était surtout de la cooptation, c'est-à-dire le fils, le père qui faisait rentrer son fils, son neveu et tout ça, c'était une assurance qu'il ne rouspèterait pas, et ça, c'était très bien. Mais bon, c'était quand même une entreprise sociale. Mais bon, cette pollution, elle a laissé des traces, et notamment dans les corps. Ça, c'est un rapport de l'INVS qui a été en 2008, voilà, qui disait que le cadmium, les personnes habitant Viviers avaient une surimpression de cadmium, mais ils avaient aussi l'existence d'un excès de risque sanitaire pour une part importante de la population viviésoise. Il y avait même 136 cas qui étaient vraiment atteints et qui ne sont plus suivis. C'est ce que j'arrive pas à comprendre, d'ailleurs. Voilà, donc la population a souffert et les gens ont une réelle anxiété sanitaire. Hein. Ils connaissent tous quelqu'un, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup pour le moment, qui a eu un cancer, qui a du diabète, et on s'aperçoit qu'il y en a quand même de plus en plus sur le bassin. Alors, tous ces déchets de l'électrolyse, ils ont été entassés plutôt mal que bien. Là, c'est le crassier de Duné qu'on appelle, sauf que ce crassier, il allait jusque au bord de la rivière Aisne qui passe là, juste en dessous. Là, on le voit bien. Le crassier, donc, il est là sur plusieurs niveaux. Vous avez la voie de chemin de fer qui est là, et juste à côté, vous avez le ruisseau Aisne. Et il y a la nappe alluviale de l'Aisne, donc, qui était très polluée, et tous ces métaux lourds se retrouvaient dans la rivière Lotte, et ces métaux lourds, on les a retrouvés jusque dans l'estuaire de la Gironde et jusque dans les huîtres de Marie-de-Laurent. Donc, c'était très important. Alors, donc, là, il y avait, sur le crassier du Duné, il y en avait beaucoup. Là, c'est d'autres vues du crassier de Duné, où on voit un dépôt peu ragoûtant dans cet alvéole. Voilà, alors là, vous voyez au loin, c'est l'Igue du Mas. L'Igue du Mas, c'est une igue, c'est-à-dire entre deux collines, où il y avait un stockage de déchets dangereux de l'électrolyse de vieilles montagnes sur trois niveaux avec trois digues qui soutenaient 800 000 mètres cubes de déchets. Alors là, on le voit un peu mieux, hein, vous voyez une digue, une deuxième digue, et il y en avait une troisième digue à côté. Là, c'est une vue sur la première digue qui a été construite. Enfin, ce site de stockage pour déchets dangereux, il a été construit en 1976, avec une enquête rapide, une enquête publique très rapide. Ils n'ont même pas attendu le résultat de l'enquête pour commencer à entasser. Voilà, ça se passait comme ça à l'époque, et je ne suis pas sûr que ça ne se passe pas comme ça maintenant. Voilà, alors, bien sûr, à cette pollution chronique, il y a deux grosses pollutions accidentelles qui sont venues se greffer. La première pollution accidentelle, c'était en 1983, à partir de ce qu'on appelait le THR. Le THR, c'est la station d'assainissement de vieilles montagnes, en fait, avec des bassins de décantation, que vous voyez mieux là. Voilà, ça se présente comme ça, c'est en bordure de l'Aisne. Voilà, vous avez la voie de chemin de fer qui passe juste à côté, et le ruisseau qui passe là. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'une de ces cuves s'est percée, bêtement. Voilà, et tout, il y a quand même 500 hectolitres qui sont partis dans la rivière l'Aisne, de là dans le Riumor et dans la rivière l'Aude. Alors, je vous laisse imaginer la panique de tout le monde, parce que 500 hectolitres, c'est quand même quelque chose d'important, quoi, hein. Voilà, alors tout le monde le suivait, ça y est, c'est arrivé à Cap-de-Nac. Le maire de Cap-de-Nac, il était complètement outré. Il a fallu qu'il arrête, bien sûr, l'alimentation en eau durant le passage de la nappe. Enfin, ça a été comme ça, mais ça a été vraiment une catastrophe. Alors, jusqu'à les nappes de boue acide, donc, qui sont arrivées, le Lot, jusque dans le Lot, jusqu'à Cajarc. Et après, ça s'est un peu dilué en allant dans le Lot-et-Garonne. Mais bon, c'est du... Alors, il y avait ce qu'ils appellent une liqueur acide. Il y avait de l'acide sulfurique, il y avait du cadmium, il y avait du zinc, il y avait du thorium, et il y avait des boues qui contenaient tout ça, quoi. Donc, c'était vraiment une très grosse pollution. Et alors, comment... Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les gens du département du Lot, ils ont dit, mais c'est pas la première fois, hein. Il y a 6 jours déjà, c'était arrivé. Donc c'était arrivé il y a 6 jours, sauf que personne n'avait rien su, quoi. Et le commissaire de Casseville avait surconfirmé, oui, c'était arrivé. Alors chaque fois, quand même, EDF déverse 10 millions de mètres cubes d'eau pour diluer la pollution. Donc, en période d'étiage, il a fallu déverser 20 millions de mètres cubes d'eau. Donc, ce qui est un peu aussi catastrophique, quoi. Voilà. Alors, on s'imagine que combien de pollutions qui n'ont pas été signalées, doit y en avoir quelques-unes, quand même, hein. Voilà. Alors, pourquoi, donc, cette pollution? Il y a eu quand même un rapport d'enquête. Le problème, c'est que la cuve qui s'est percée, il y avait à l'intérieur 800 mètres cubes de liqueur acide. Sauf qu'il n'y avait qu'un bac de rétention de 300 hectolitres. Voilà la faute de vieilles montagnes. Hein. Donc il y a 500 hectolitres qui sont partis dans la rivière. Voilà la faute, donc, un système préventif insuffisant. Je trouve que c'est délicat quand même. Voilà. Et puis le 10 juillet 1986, c'est à partir de Ligue du Mas, c'est-à-dire là où étaient entreposés les déchets dangereux dans cette digue, qui ou une digue à céder, ou une conduite à céder, toujours est-il qu'il y a une quantité astronomique de produits qui est parti, contenant des boues, des liqueurs acides, pareil, pas d'acide sulfurique, mais du cadmium, du zinc, de l'arsenic, enfin, toutes ces joyeusetés. Voilà, donc, bien sûr, là, branle le bas de combat, et... Le directeur de Vieille Montagne a été convoqué chez Alain Carignon, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Là, je pense qu'on va voir M. Gadea. Hein. Et là, je pense que c'est Pierre Delpech, le maire de Casseville. Il me semble. Hein. Voilà, donc ça a fait un bruit énorme. Voilà les articles dans le département du Lot. Hein. Eux, ils étaient complètement scandalisés, quoi. Ils étaient outrés. Chaque année, ça se produit à la même période. Toujours pareil, en juillet. Hein. On se demande si c'est pas fait exprès, quoi. Hein. Voilà. Alors, les élus sont remontés. Les syndicats sont remontés. Les syndicats agricoles, n'en parlons pas. Les pêcheurs sont remontés comme des pendules. Voilà. Et puis les politiques, ils en rajoutent. Voilà. Mais le 19 juillet, deuxième pollution. Là aussi, comme en 83, on a eu droit à une deuxième couche. Alors là, ils se sont tous déchaînés. Et dans la presse, on a eu droit à des communiqués de tout le monde qui étaient scandalisés. Le coup de grâce. J'ai rencontré le journaliste Alain Leblanc. Là, c'est Jean-Michel Favre. Mais j'ai rencontré Alain Leblanc, qui était journaliste à cette époque dans le Lot. Et j'ai même rencontré dans l'Aveyron Roger Lamazin, qui a suivi un peu dans l'Aveyron. Mais dans l'Aveyron, on a été un peu plus discret. Mais dans le Lot, ils se sont régalés. Alors, ils ont organisé, bien sûr, des réunions de riposte pour porter plainte et tout ça. Ça, c'est une réunion à Cajarc où il y avait 600 personnes, avec du beau monde à la table. Là, vous avez Mickaël, il y a Malvi, ils y étaient tous, hein, il n'y a pas de problème. Bernard Charles, qui était député, qui a traité Vieille Montagne de cynique et d'irresponsable. Voilà, alors il faut aussi rappeler que toutes ces catastrophes écologiques, des débordements industriels, parce que là, ça a très largement dépassé le périmètre de l'entreprise Vieille Montagne, se sont passés à une période difficile pour Vieille Montagne. En 81-82, l'entreprise a décidé de fermer le laminoir de... Non, la fabrication de zinc à Viviers en 1987. Donc de 1982 à 1987, ça a été un échange avec les syndicats, des échanges, mais en fait de compte, ils sont arrivés à fermer l'entreprise en 1987. Bon, je ne vous raconte pas les manifestations auxquelles j'ai assisté moi aussi, hein, à l'époque, parce que il faut dire qu'il n'y avait pas que Vieille Montagne à cette époque qui était en danger, c'était toute la sidérurgie qui était en train de couler, c'était Vallourec, c'était SESD, les anciens EMD et tout ça, et d'autres entreprises qui ont fermé en 1987. Ça a été vraiment l'année noire du bassin. Hein. Donc, sans faire le lien avec les pollutions, hein, mais voilà, c'est, moi je plaignais plus les ouvriers que les patrons, quoi, dans cette histoire, quoi. Hein. Voilà, et puis en 87, 587 licenciements. Hein. Alors, ils n'ont pas été tous licenciés bruts. Il y en a qui ont été mis en pré-retraite, il y en a qui sont venus à Purflux, à Marcillac. Il y a eu des entreprises d'essaimage qui se sont créées, la Stémat. Enfin, il y a eu des tas de petites entreprises qui se sont créées. Ça s'est pas trop mal passé, mais il y a eu quand même 587 emplois en moins à Viviez, quoi, hein. Voilà, alors maintenant on va parler un peu des débordements industriels en général. Alors on commence à en avoir quelques-uns, et il est très important. Hein. Là, c'est la une de la Dépêche du Midi en 2001. Il faudrait voir la date. 2001, voilà, sur AZF, quoi. Hein. Qui a été vraiment une catastrophe industrielle, un vrai débordement industriel. Et là, vous avez l'accident de Lubrizol. Vous voyez aussi la une de Paris-Normandie. Hein. Voilà, ce sont des accidents qui ne devraient pas arriver, mais qui arrivent. Voilà, alors, il faut savoir que le nombre d'accidents d'industrie est en croissance. Hein. L'année 2018, 1112 accidents et incidents dans les installations cassées. En 2017, 978, et en 2016, 827. Donc, il y a une très forte augmentation des accidents dans les entreprises. Et dans les gravités aussi, il y a une forte augmentation des accidents dans les entreprises de Céveso. Voilà. Et le secteur qui a le plus d'accidents, c'est le secteur des déchets. Il faut le savoir, notamment en orange, c'est les incendies. Alors, à côté de ça, il y a eu quand même aussi, il faut le dire, un allègement de la législation pour aider encore les entreprises. C'est-à-dire, il y a eu le décret du 11 août 2016 qui a basculé bon nombre d'installations classées du régime de l'autorisation obligatoire à celui du cas par cas. Alors, l'autorisation obligatoire, il y a une obligation de faire une étude d'impact et une étude des dangers. Quand on n'est pas d'autorisation obligatoire, on n'est pas obligé de le faire. Sauf qu'une étude d'impact et une étude de danger, ça me semble important. Hein. Voilà, puis il y a la loi ESSOC de 2018, qui est la loi pour un État au service d'une société de confiance, a fait que le cas par cas pour les agrandissements et modifications des sites Céveso n'est plus examiné par l'autorité environnementale, mais le préfet. Ça, c'est aussi une catastrophe, parce que les préfets, ils ont tellement de pression par les politiques locaux qu'ils peuvent, ils donnent toutes les autorisations possibles. Voilà, alors, pollution globalement, la réglementation protège l'industriel, selon Thomas Leroux. Thomas Leroux, c'est celui qui a fait cet ouvrage que je cite souvent dans mon livre, La contamination du monde. Il a fait un inventaire de toutes les pollutions et de tous les débordements industriels qu'il y a eu en France, mais aussi dans le monde. C'est un livre super intéressant qui se lit facilement. C'est un spécialiste, Thomas Leroux, des débordements industriels, et il l'a fait avec François Jarige. Thomas Leroux, il travaille au CNRS, et François Jarige, il est universitaire. Hein, il a écrit beaucoup de livres sur aussi les pollutions, sur la technoscience, sur... voilà, il écrit fréquemment dans la revue La Décroissance. Hein. Voilà, et c'est un livre qui est sensationnel. Alors ça s'arrête dans les années 70, parce qu'il n'a pas voulu aborder le nucléaire, parce que là, il aurait fallu un livre, hein, à lui tout seul. Voilà, et ensuite, bon, on s'aperçoit que les budgets, le budget 2020, la santé et l'écologie, principale suppression des postes. Et quand on supprime des postes, c'est dans les inspecteurs des installations classées, en général, en premier, hein, pour ne pas embêter les entreprises. Voilà, d'ailleurs, les inspecteurs des installations classées se plaignent parce qu'ils ont de fortes entraves par les préfets eux aussi. Alors, tout ce que je vais citer, c'est peut-être là que vient cette augmentation des accidents, finalement. Les entreprises dépensent moins pour la protection de l'environnement. Vous voyez les investissements dans les équipements entre 2012 et 2017, de 1,4 milliard, on est passé à 1,74 milliard. Donc c'est quand même une forte baisse des investissements, mais il y a aussi une forte baisse dans les études pour l'environnement. Donc l'environnement, ça intéresse de moins en moins les entreprises. Et elles ont raison, parce que de toute façon, l'État leur donne raison et sort des lois qu'ils n'ont pas besoin. Quand on ne fait pas d'études d'impact et d'études des dangers, c'est autant d'économiser. Mais c'est autant d'accidents en plus, malheureusement. Hein. Et puis, on se souvient de cette phrase d'Édouard Philippe, quand il a annoncé la fin de Notre-Dame-des-Landes. Pour le futur, il faudra aussi tirer les leçons de l'échec de Notre-Dame-des-Landes en termes de débat public, de procédures, de présentation et de discussion des alternatives. Eh bien, on l'attend toujours, hein. Voilà. Alors, l'autorisation environnementale, le gouvernement qui porte un coup aux enquêtes publiques. La radiation d'un commissaire enquêteur relance le débat sur le bon fonctionnement des enquêtes publiques. Un commissaire enquêteur a été licencié cette année au mois de juillet parce qu'il avait donné 6 avis défavorables sur une soixantaine d'enquêtes. Vous vous rendez compte, là, c'est... Voilà, ils ne peuvent pas supporter, quoi. Hein. Voilà, et donc la crise de l'enquête publique, révélateur d'une démocratie locale à l'agonie face à la toute-puissance des préfets. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur les commissaires enquêteurs. Vous savez qu'ils sont choisis dans des commissions départementales où il y a la préfète, bien sûr, où son chef de cabinet, où il y a les services de l'État, mais malheureusement il y a aussi des maîtres d'ouvrage, hein, comme le département, comme des maires, comme tout ça. Et donc, eux, ils ont tendance à choisir des commissaires enquêteurs qui ne les embêteront pas. Alors, ils prennent des anciens gendarmes, des anciens militaires, des anciens des ponts et chaussées. Voilà, ils sont que des gens qu'ils ont l'habitude de fréquenter et qui ne les embêteront pas. Alors, c'est sûr que d'avis défavorable dans les enquêtes publiques. Il y en a malheureusement pas beaucoup, quoi. Mais c'est pas un bon signe de démocratie. Voilà, là on revient donc sur Viviez. Donc, les zones polluées, les ligues du Mas, le crassier de Dunay. Donc il a fallu faire une opération de... L'État a poussé Vieille Montagne à faire une opération de dépollution. En fait, l'opération de dépollution s'est soldée par une opération de déplacement de pollution. Parce qu'ils ont bien enlevé des déchets là, sous le terril de Dunay. Ils ont bien enlevé des déchets à Ligue du Mas, ils ont bien enlevé des déchets au giratoire de l'Aubarède, c'est-à-dire là où il y a Intermarché, mais c'était pour les mettre à eau, dans cet alvéole-là, que vous voyez là, où il y a 1,3 million mètres cubes de déchets industriels dangereux. Alors vous allez voir où c'est situé par rapport aux habitants de Viviers. Voilà, donc opération... Ça, c'est l'alvéole au tout début, elle commence à être... Je l'ai visité une ou deux fois, hein, parce que les élus, il n'y a pas de problème. On pouvait y aller quand on voulait, presque. Ça, c'est l'usine. Alors, ils appelaient ça de dépollution. En fait, c'était une usine où ils ajoutaient des liants hydrauliques aux déchets, histoire de les stabiliser un peu, quoi. Mais c'était absolument pas de la dépollution. Alors, ça, c'est dans le Ligue du Mas. Vous voyez, en fait, ce sont des terres rouges qui sont pleines de pollution, voilà, qui ont été enlevées, quoi, et qui ont été mises dans cet alvéole, où on voit bien aussi. Voilà, donc vous avez l'alvéole là, vous avez la minoir de Vieille Montagne, et là vous avez les cités ouvrières, hein, et là vous avez l'école. Ce qui fait que si un jour, comme au Brésil ou ailleurs, les digues pètent, alors vous voyez que les digues sont là, ça fait quand même 53 mètres de profondeur, hein. Alors, il suffit qu'il y ait une alvéole qui se fissure, que de l'eau rentre là-dedans, et avec le temps, ça peut évoluer, hein, une alvéole. Voilà, là, vous avez une vue de dessus. Et donc, l'étude des dangers pour construire ça disait déjà que s'il y avait une rupture de digue, le laminoir dessous n'existe plus. Mais ils n'ont pas continué à dire que le laminoir n'existe plus, mais les cités ouvrières et l'école n'existent plus non plus. Ça, c'est, ça n'a pas été dit. Hein. Voilà, alors du Cagnon, il faut quand même être honnête et dire que cette opération de dépollution, entre parenthèses, puisqu'on a repollué ailleurs, ça a eu quand même un bien énorme sur les eaux de la rivière Lot, puisque vous voyez le Lot qui fournissait 70 tonnes de cadmium en 1992, il en fournit en 2013 que 4 tonnes 5, ce qui est déjà beaucoup. Mais enfin, par rapport à la pollution qu'il y avait dans les années 90 et avant, c'est quand même bien. Alors là, vous voyez, ça a pollué jusque les huîtres de Marais-Nouron. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de visiter le parc naturel de l'estuaire de la Gironde, vous verrez un panneau où il signale que le cadmium de Vieille Montagne est venu grignoter les huîtres dans ce secteur. Et ils viennent de temps en temps, régulièrement, parce qu'il faut savoir qu'il y a un effet boomerang. Il y a quand même 200 tonnes de cadmium pur qui sont enfouies dans 6 millions de mètres cubes de sédiments. Alors, ces sédiments bougent quand il y a des grandes pollutions. Donc, de temps en temps, il y a des rappels de cadmium. Donc, quand il y a des gros orages, ils surveillent dans l'estuaire de la Gironde. Voilà, alors ça, c'était la vue du dessus. C'était dans le projet de dépollution de la Vieille Montagne. Il nous disait, en 2015, vous allez voir, vous allez être végétalisé de partout. Il y aura de la verdure partout. Ça, c'est la montagne un peu laid, hein. Voilà, elle était bien verte, là. Et en dessous, j'ai pris la même vue, mais maintenant, vous voyez que c'est quand même totalement différent de ce qu'ils nous promettaient pour 2015 en 2008. Voilà la première escroquerie. Donc, ils n'ont rien fait, hein, là-dessus, concernant la végétalisation. Et on a compris un peu pourquoi. Mais déjà, à cette époque, en 2009, le maire de Viviers disait « il faudra me passer sur le corps, il n'y aura pas de décharge dans le Ligue du Mas ». Parce qu'il se murmurait déjà qu'on allait mettre une décharge dans le Ligue du Mas. Et voilà, il défendait tout « non, non, tant que je serai vivant, il n'y aura pas de décharge ». Et ce soir, j'étais au conseil municipal de Viviers qui a voté pour le projet Solena, c'est-à-dire pour faire une décharge dans le Ligue du Mas. Voilà, ce sont nos élus dans le bassin. Voilà, alors comment on en est venu à ce projet de centre de traitement et de stockage de déchets? Il faut savoir que dans l'Aveyron, depuis plus de 10 ans, nos déchets sont traités dans le Tarn. Alors, pas par envie, c'est parce que quand il a fallu fermer la décharge du Burgas à Sainte-Radegonde en 2000 et quelque, eh bien, il a fallu trouver quelqu'un pour remplacer. Et donc, il n'y a que le syndicat des déchets du Tarn qui s'est proposé pour prendre nos déchets. À côté de Groyer. Alors on était bien contents donc de les trouver. Mais je pense qu'au conseil départemental, ils n'ont pas la mémoire intense. Donc en 2016, en mars 2016, le conseil départemental a voté une motion comme quoi les déchets aveyronnais doivent être traités en Aveyron. Comme ça. Il n'y a pas une loi qui le dise, mais le conseil départemental l'a voté. Ça a été, mois plus tard, le même vote au SIDOM, c'est-à-dire au syndicat départemental des déchets de l'Aveyron. Alors, on soupçonne qu'il y ait des ententes entre les élus et les industriels depuis très longtemps, parce qu'il faut savoir que celui qui mène le projet de ce centre de traitement et de stockage de déchets à Viviers, c'est Séché, il s'appelle Entrouillet Séché, qui était l'entreprise qui avait dépollué Vieille Montagne. Donc, voilà. Donc, tout était cousu de fil blanc, je suis persuadé, même avant la dépollution des terrains de Vieille Montagne. Tout ça a été monté de main de maître. Je pense que même quelques conseillers généraux du bassin ont baigné dans cette histoire. Voilà, et les élus du bassin, les pauvres, ils arrivent en fin de carrière, ils réfléchissent plus trop. Voilà, et ils ont bien sûr suivi. Voilà, alors, l'absurdité, ou l'Aveyron, vous voyez l'Aveyron là, qui va de là jusqu'à haut, le principal pôle de production des déchets, c'est la région ruthénoise. Alors, bon, la Bessières-Candeille, c'était ici, à peu près dans le Tarn, mais Viviers-Aubin, vous voyez où c'est par rapport au département de l'Aveyron, les gens de Camarès, ils vont se régaler d'amener leurs camions là-haut, quoi. Voilà, c'est quand même un peu absurde, d'autant plus qu'avec le Tarn, on avait une gestion publique des déchets, c'est-à-dire à travers un syndicat d'économie mixte. Trifil, c'est un syndicat départemental, le SIDOM, c'était un syndicat départemental. Donc on avait une gestion publique des déchets qui pouvait s'appuyer sur une économie des déchets, surtout arrêter d'en produire tant que ça, quoi, des déchets. Voilà. Solena, alors vous avez, j'ai laissé une petite diapo pour vous dire que c'est en fait Solena, c'est Solutions Environnement Aveyron, c'est une alliance entre Séché, qui a 60% du capital, et l'entreprise Sévigné de Millau, qui a 40% du capital, mais qui s'est bien gardé de faire ça dans le sud d'Aveyron. Voilà, vous avez un peu les magouilles. On a des dirigeants à Herné, à Laval. Voilà, de toute façon, pas un seul n'habite le bassin. Le plus proche, c'est Flavin. Hein. Voilà, alors il se trouve que, chose qui était cousue de fil blanc aussi, qui devait être convenue dès 2005, Séché a racheté les terrains dépollués à Vieille Montagne. Voilà. Et a fait un bail amphithéotique avec l'entreprise Solena pour louer les terrains. Donc ils se servent entre eux. Voilà. Alors quand je dis vendu, pas vendu cher. Hein. Pour moi, là aussi, c'est un peu dur à avaler. Alors voilà, vous avez Vivier là. Là vous avez la RD 840, le giratoire de l'Aubarède. Là, vous avez Vivier-Pont, donc, avec l'école et les cités ouvrières. Et là, vous avez ce qu'on appelle Vivier-Bourg, où il y a la mairie, la gare, où il y a... Voilà. Et là, vous avez Vieille-Montagne, qui est là aussi et qui est là aussi. Là, vous avez la SNAM, Société Nationale d'Affinage des Métaux, qui travaille sur les batteries, le recyclage de batteries au cadmium. Voilà. Et là, on va vers Aubin. Là, vous voyez donc l'alvéole. Là, vous voyez l'Igue du Mas qui a été dépolluée, donc, où il n'y a plus aucun déchet. Hop. Là, il me manque... Ah non, je l'ai mise là. J'ai intercalé une diapositive. Et voilà ce que ça va devenir. Alors, vous voyez l'Igue du Mas avec le paquebot de déchets. Alors, on a levé 800 000 mètres cubes de déchets industriels et on va mettre 2 millions de mètres cubes de déchets ménagers. Pour vous dire, hein, on en a pour 36 ans. Hein. C'est un scandale. Alors, l'usine, elle serait sur le crassier de Dunay qui serait redessiné. L'assise serait redessinée. Ce qui est prévu aussi, c'est à Séron. Séron, ça se trouve là. C'est de créer une carrière d'argile pour étanchéifier l'Igue du Mas, avec de l'argile. Donc c'est un chantier énorme. On voit que de là à là, il y a 300 mètres. C'est-à-dire entre les premières maisons et le centre de traitement, il y a 300 mètres. Entre l'usine classée Céveso et le centre de traitement, il y a 200 mètres. Donc s'il y a un incendie là, les flammes et les tout ça peuvent descendre jusque-là. Et là, vous avez un atelier de logistique avec des camions et tout ça aussi. C'est complètement fou de regrouper ça là et à côté, en plus d'habitation, quoi. On tombe vraiment sur la tête. Alors, pour l'instant, il n'y a que ce centre de traitement et de stockage des déchets. Mais il faut savoir que Solena a déjà déposé un dossier à la région avec la communauté de communes pour faire... un incinérateur à combustible solide de récupération. Alors, le combustible solide de récupération, c'est ce que vous avez en mélange dans la poubelle noire, mais c'est pas ce qui est biodégradable, c'est tous les petits déchets de plastique, de blister, de caoutchouc, de mousse, tout ça qui sont faits à base de pétrole. Et ils vont le brûler dans une chaufferie, dans une chaudière, dans un incinérateur. Voilà. Ils appellent ça une chaudière verte. Sauf que ça carbure au plastique, quoi. Avec les conséquences en dioxine, en furane, tout ça à côté des habitations. Voilà. Et alors, ils ont 122 hectares. Alors, je peux vous dire que sur 122 hectares, ils ont de la place pour nous mettre toutes les saloperies qui existent partout. c'est les spécialistes des déchets. C'est le troisième groupe après Veolia et Vinci dans les déchets, ou Bouygues, enfin, je ne sais pas, c'est le troisième. Hein. Voilà. Et faut savoir, comme le secteur des déchets est le premier secteur industriel qui a des accidents, on est très inquiet, quoi. Hein. Voilà, donc ça, c'est le projet. Et voilà, et puis on s'inquiète aussi un peu, parce qu'on a vu que la circulation à Nus et la circulation à Saint-Christophe, des gens s'inquiétaient dans la traversée. Et c'est vrai que moi, quand je vais à Rodez, je me rends à Rodez, on voit de plus en plus de camions et de camions de plus en plus gros. Eh bien, vous allez en voir 30 de plus à l'aller et 30 de plus au retour. Voilà. Donc, il faudra quand même le dire un peu aux gens, quoi. Hein. Voilà ce projet qui nous tombe sur le dos, sur le bassin. Voilà. Alors, il y a une association qui s'appelle ADEBA, Association pour la défense de l'environnement du bassin et des alentours, qui se bat contre ce projet depuis 4 ans maintenant. Donc, il y a eu des manifestations, on a informé les gens, on a fait une promenade autour de Ligue du Mas, parce que c'est un lieu qui est magnifique. Hein. Faut savoir que Ligue du Mas, il y a une forêt de châtaigniers matures sur le haut qui est magnifique, qu'il y a des insectes qu'on ne trouve pas ailleurs, dont le fameux pique-prune, scarabée pique-prune. C'est vraiment un lieu qui est magnifique, quoi, qu'on va complètement saboter. Quoi. Voilà, et puis dernièrement, c'était le samedi 16, on a fait une manif où il y avait 200, 250 personnes avec un totem de la honte à destination des élus, mais ça ne les a pas fait bouger d'un pas, vu que ce soir encore, ils ont voté pour. Voilà, en gros, vous connaissez un peu le projet, vous connaissez les pollutions qu'il y a eu, notamment les pollutions accidentelles à partir de vieilles montagnes, et le projet solaire, parce que Loïc m'avait dit d'en parler aussi de ce projet. Voilà, merci beaucoup. Donc, je suis à votre disposition si vous avez des questions, bien sûr. Hein.